too.
Corps, amour,
sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Les premiers et troisièmes jeudis du mois de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes bien sur Calibre, sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Et nous sommes le 4 février 2010, en direct ce soir. Et alors, avec nous, avec vous, ce soir, comme équipe de choc, nous avons Maud et Christelle à la technique. Et Emma et moi-même, Mélanie, au micro. Voilà.
Voilà, alors c'est à moi de parler, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ça va vite. Hein.
On le dit à chaque émission, on va pas refaire une longue présentation parce que peut-être que celles et ceux qui nous écoutent depuis le début on en marre en fait, mais bon, voilà, on se dit bon, voilà, il faut quand même qu'on explique un peu qu'est-ce qu'on fait là. Donc en fait, on avait envie de faire une émission un peu interactive, avec la possibilité de pouvoir parler avec des gens sur des questions qu'on n'aborde pas forcément très souvent. Donc c'est pour ça que vous avez entendu dans le jingle calibre, corps, amour, sexualité. Voilà, donc nous on avait envie de s'offrir comme ça un espace de discussion, d'échange sur ces questions un peu d'intimité, de relations, de sexualité, etc. Et qui soit aussi dans un cadre un peu sympa, respectueux avec des valeurs qui nous tiennent un peu à cœur, quoi, de respecter effectivement la parole des gens, d'être dans une posture d'écoute et surtout de ne pas juger ni de dénoncer des tabous, mais plutôt être dans... Oui, je vois. Alors on me fait plein de signes en technique, puisqu'il y a un premier appel, donc on va le prendre après cette petite présentation. Mmh. Et puis donc voilà un peu l'état d'esprit de l'émission. Voilà, on n'est pas des expertes, on n'est pas payé pour être là. Nous, notre présence, elle est justifiée par une motivation personnelle. Néanmoins, on s'est quand même un peu formé sur ces questions. Et puis voilà, on essaye d'apporter des conseils si c'est ce qui est demandé, et puis sinon d'offrir un espace de discussion qui soit au maximum de qualité, quoi.
On dit quand même les petits points techniques avant de prendre l'appel. Donc, on vous rappelle que donc l'émission elle est tous les premiers et les troisièmes du mois. Ça c'est depuis le début. Et donc là on est le premier du mois. Mais figurez-vous que à partir du mois de mars, incroyable, nous allons passer à une émission hebdomadaire. Et voilà, donc tous les jeudis, ça sera le rendez-vous du jeudi soir. Ça sera calibre, ça sera formidable.
Ouais.
Et pour nous appeler, donc c'est le 04 76 09 09.
09.
Et voilà, 04 76 09 09 09. Et donc si c'est occupé comme ça l'est actuellement, parce que nous avons quelqu'un en ligne, il faut pas hésiter à appeler dès que vous voyez qu'on n'est pas en train de parler avec quelqu'un au téléphone ou que c'est de la musique. Voilà.
Ouais. On va accueillir notre première auditrice ou auditeur.
Bonsoir.
Allô, allô.
Bonsoir.
Bonsoir. Est-ce que tu veux nous dire un peu la raison de ton appel?
Ouais, en fait, ça s'entend peut-être, je suis un garçon. Et,
oui.
Et je suis intéressé par les méthodes de contraception parce que je trouve ça difficile que le partage de cette question-là soit vachement souvent un combo aux filles. Et en regardant, en me renseignant auprès d'amis et puis également un peu sur Internet, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui décourageaient de faire une vasectomie.
Mm-hmm.
Et justement, je pense que ça peut être une super solution. Et voilà. Et en fait, je voulais savoir si il y avait moyen d'avoir quelques explications là-dessus, sur l'éventuelle prise en charge. Par la sécu, ce genre de choses. Et
mm-hmm.
Puis, également ça, apparemment, il y a trois techniques. Il y a une technique chinoise avec un trou, il y a une technique où on bouche et une technique où on ferait plutôt quelque chose de, d'autre chose. J'ai pas bien compris. Et en fait, en particulier sur la page de Wikipédia, ils font vraiment très peur en disant qu'il y a des, même s'ils disent qu'il y a que 2 ou 3 %, mais ils font vraiment très peur sur les effets secondaires. On a l'impression qu'on va exploser de l'intérieur ou je sais pas.
Ça serait quoi comme effet secondaire qui dirait?
Des infections, des douleurs lancinantes qui peuvent durer tout le temps, qui peuvent ne jamais disparaître, etc.
D'accord, oulala.
Après, ça, apparemment, comme sur beaucoup de pages Wikipédia, c'est des lobbies industriels ou de ce type-là qui écrivent.
Ouais.
Donc, bon, c'est qui parle, mais je voulais savoir s'il y avait plus d'informations sur, sur comment pratiquer en France en particulier. La vasectomie, sachant qu'on m'a même dit, j'ai des copains qui n'ont pas réussi. Au bout de quelques temps, j'ai compris que ça tombait à l'eau et puis ils n'en parlaient plus. Donc ça a l'air d'être difficile, voilà. C'est ma question.
D'accord. Bah, alors déjà, moi, ce que j'aimerais dire, déjà, c'est qu'effectivement, comme contraception masculine, aujourd'hui, en France, il n'existe que soit le préservatif masculin, soit la vasectomie. Mais que dans le monde entier, en fait, il y a des recherches qui sont faites pour développer des nouvelles contraceptions masculines, donc hormonales, notamment à base de testostérone. Et puis d'autres, il y a une nouvelle molécule qu'ils ont découvert qui arrêterait la fabrication des spermatozoïdes et tout ça. Mais toutes ces études, elles sont en cours et ça, effectivement, comme tu le dis, les lobbies, ils sont pas forcément très motivés pour aller jusqu'au bout. Et du coup, moi, ce que je me dis, c'est que indépendamment de ce qui existe déjà, à savoir du coup le préservatif et la vasectomie, je crois que c'est important de se saisir de cette question-là pour que, enfin, les filles et les garçons et pas que les chercheurs, pour demander à ce que les choses elles avancent sur cette question pour qu'il y ait plus de choix possibles, parce qu'effectivement entre le préservatif et la vasectomie, c'est quand même parfois un petit peu difficile de de choisir quoi. Donc voilà. Donc ça c'était un petit préambule.
Comme autre moyen de contraception, il y a aussi l'absence de pénétration et d'éjaculation vaginale. Bon, voilà.
Pas fan de la pénétration et d'éjaculation ni vaginale ni ailleurs, mais malgré tout, j'ai déjà eu des... C'est quelque chose qui m'est d'ailleurs peut-être plus souvent demandé que je le propose dans les relations, j'ai des relations hétéro en général.
Ouais.
Et donc en fait, c'est pas moi qui le demande, je suis pas très, très fan ni demandeur de ça,
mm-hmm.
mais par contre, on me le demande presque tout le temps. Et,
ouais.
Et du coup, j'ai eu des accidents et je me suis retrouvé confronté, moi, on s'est retrouvé confronté avec des partenaires à des IVG et je trouve ça super
ouais.
difficile, quoi.
D'accord.
Et voilà.
Non, mais moi je trouve que quand même c'est intéressant de se poser la question et puis c'est ouais, moi je trouve que c'est intéressant d'en parler là parce que c'est pas une méthode qui est souvent envisagée en fait, donc ça va nous permettre de donner quelques infos déjà là-dessus. En préalable, j'aimerais lancer un appel à des amis qui nous écoutent, je le sais, des amis garçons qui ont au moins fait des recherches assez poussées là-dessus et pour certains qui ont pratiquer une vasectomie. Donc, ça serait intéressant que s'ils ont envie, ils nous appellent pour témoigner et dire un peu comment ça s'est passé, etc. En tout cas, par rapport à la vasectomie, je sais pas si toi, tu t'es déjà renseigné, si tu as déjà fait des démarches. Donc, c'est une opération externe, si on peut dire, donc une intervention chirurgicale quand même, mais bon, assez bénigne. Est-ce que tu as envie qu'on raconte un peu ce que c'est, ou toi tu veux dire, si tu as déjà cherché un peu des infos là-dessus, comment ça se passe?
C'est plutôt... personnellement, j'ai une idée de ce que c'est.
Mm-hmm.
Et en fait, je suis arrivé à ce choix-là parce que je suis vraiment pas partisan des médicaments.
Ouais.
Et que je préfère passer une fois sur le billard avec une péridurale,
ouais.
Avec une intervention qui est relativement, effectivement, bénigne et qui peut se faire même sans scalpel aujourd'hui.
Ouais.
que d'avaler des produits chimiques qui me plaisent pas beaucoup du tout. Mm-hmm. Voilà, donc ouais, je sais techniquement ce que c'est. Mon problème, c'est est-ce que j'ai entendu que c'était interdit plus ou moins. J'ai entendu des gens qui me disaient aussi que c'était un chemin de croix pour y arriver, comme d'ailleurs de l'autre côté, j'ai une sœur par exemple qui en a bavé pour réussir à se faire ligaturer. Mm. Et puis après, est-ce que concrètement, quelle est la démarche à suivre vis-à-vis de son généraliste, puis d'un spécialiste, quel spécialiste aller voir, est-ce qu'il y a une prise en charge de la sécu, est-ce qu'il y a des pays à côté de la France où ce serait peut-être plus facile, voilà, mm-hmm. On a tout ce qui permet de le faire concrètement, et puis cette question également des effets secondaires, même s'ils sont donnés comme étant statistiquement faibles, 3%,
Alors moi déjà ce que j'ai envie de rappeler c'est que c'est autorisé en France depuis une loi de 2001. Donc le 4 juillet 2001, il y a une loi qui a autorisé toute personne majeure qui en fait la demande explicite à subir cette intervention chirurgicale, que ce soit les hommes ou les femmes, hein, donc les deux formes de stérilisation. Donc il n'y a pas de condition d'âge, il n'y a pas de condition de nombre d'enfants, de statut marital. Du moment que tu es majeur et que tu en fais la demande explicite, tu as le droit.
Il y a les fameux 4 mois de délai de réflexion qui sont imposés.
Voilà, par contre, un médecin que tu peux, que tu vas... 3 mois, ouais. 4, ouais. 4. Un médecin peut refuser de faire l'opération, parce que les médecins, ils ont le droit de... C'est comme... je ne sais plus comment c'est la clause de...
Serment d'Hippocrate.
La clause de confidentialité, quelque chose comme ça. En gros, si c'est contraire à son, à son envie personnelle, il a le droit de refuser. Par contre, il est obligé de t'indiquer un autre médecin. Voilà. Je ne sais pas si un médecin généraliste lambda peut le faire. En tout cas, je pense que si tu vas au planning familial, tu y verras des médecins qui, en tout cas, seront bien plus informés sur qui c'est qui le fait, etc. Je pense qu'il y a des médecins du planning qui doivent le faire. C'est une opération qui dure un quart d'heure. On dit qu'elle est bénigne et tout ça, mais du coup, moi, je trouve que le fait de dire qu'elle dure qu'un quart d'heure, ça montre bien que vraiment, c'est un truc rapide, quoi.
Sous anesthésie locale.
Voilà, exactement. Donc, peut-être quand même si tu as l'air de t'être bien renseigné, quand même pour les autres auditeurs et puis auditrices aussi, parce que ça les intéresse, peut-être rappeler que toi, tu parlais de différentes méthodes, de boucher, de sectionner, des choses comme ça. Je crois qu'en France, la seule qu'on fait, c'est on sectionne. C'est pour ça qu'elle est considérée comme irréversible. Même s'il y a des cas, si tu essayes de re... Parce qu'on va sectionner... Attends, je vais essayer d'être claire. En fait, on va sectionner les canaux qui transportent les spermatozoïdes des testicules jusqu'à l'urètre. Parce que du coup, ça rejoint l'urètre pour sortir via le pénis. Et donc, si tu fais une opération quelques années après... On va laisser tomber sur la réversibilité, on va essayer d'être clair. La technique de bouchage, elle existe en Chine, par exemple, et elle est beaucoup plus réversible, parce qu'en fait, c'est juste, tu mets un petit bouchon à l'intérieur de ce canal, et puis après, tu peux l'enlever. Elle existe en Chine, mais elle attend encore les accords de l'État, en fait, pour être appliquée. J'ai lu ça aujourd'hui, en tout cas. Moi, sur les effets secondaires, j'ai jamais rien lu de ce que tu racontes. Ce que j'avais lu, c'est que ça n'a pas du tout d'effet sur l'apparence physique, sur la qualité de l'érection, ni même la qualité de sur l'éjaculation en fait, parce qu'il y a quand même l'éjaculat qui sort quand t'as une éjaculation.
Ouais, de la prostate, ouais.
Que ça n'a pas d'effet non plus sur le désir sexuel, sur le comportement psychologique, affectif. Donc, toi, tu parles d'infections.
J'ai fait vasectomie sur Wiki, et il y a un jeu qui est apparu avec tout un tas d'explications techniques, etc. Mais surtout techniques et médicales, pas du tout pratiques, comment est-ce que je peux faire. Et il y a vraiment, franchement, à lire, ils mettent vraiment... ils mettent vraiment le paquet, quoi.
Mmh. Ça fait peur, quoi. moi je pense que comme source
ils mettent le paquet sur les effets secondaires, ouais. C'est ça.
Okay. Moi je pense que comme source Wikipédia c'est un peu qui tout double, ouais. Du coup oui. Des fois vaut mieux aller voir des choses qui ont l'air un peu plus officielles parce qu'effectivement là il suffit que quelqu'un qui soit contre la vasectomie il passe par là et que il décide d'en mettre des tonnes pour faire peur aux gens qui comme toi se renseignent sur la question, en fait on est voilà. Après il y a des sites sur la contraception en général qui indiquent plus ça. Il y a un site qui s'appelle contraception.fr ou choisir ma contraception. Il y en a un canadien aussi qui s'appelle masexualité.ca où là tu as ces informations sur la vasectomie.
Et ça peut valoir le coup d'ailleurs d'aller voir sur des sites sérieux et d'informations d'autres pays d'ailleurs que la France, ouais. Parce que en France c'est très peu pratiqué et il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus répandu, par exemple les États-Unis, le Canada, c'est une pratique qui est beaucoup plus répandue et ça paraît moins extraterrestre en fait de se faire stériliser, donc ça peut valoir le coup en fait d'aller voir ça. En tout cas moi je pense qu'effectivement la piste du planning familial, au moins pour rencontrer des gens, en discuter et qui t'orientent vers des médecins qui acceptent de faire cette intervention et qui sera pas dans une posture jugeante ou décourageante, ça peut déjà être une première étape intéressante pour toi, quoi. Voilà, et après...
Puis quand même, je pense que... je pense qu'il faudra quand même t'armer de courage, parce qu'effectivement, je pense que c'est pas simple dans notre société d'avoir cette démarche-là. Et je crois même, par exemple, que la conservation du sperme dans une démarche de vasectomie, elle est fortement conseillée pour si jamais tu regrettes. Donc, ça veut bien dire l'état d'esprit dans lequel on baigne. C'est dramatique si on fait le choix définitif de pas avoir d'enfant, quoi.
Oui, ou si on fait le choix. Enfin, ce qui est dramatique aussi, c'est que des formes de parentalité différentes sont même pas envisagées. C'est-à-dire qu'on met quand même une forte pression à la reproduction, en fait. Alors que des gens peuvent très bien faire le choix aussi de se faire stériliser, mais de tout à fait envisager d'être parent un jour, mais en prenant l'option de l'adoption ou d'autres options. Parce que, enfin, moi j'ai envie de rappeler ça quand même. Enfin, pratiquer une vasectomie ou une stérilisation pour un homme ou pour une femme, ça veut pas forcément dire renoncer à la parentalité. Ça veut dire renoncer à se reproduire, en fait. Enfin, donc c'est voilà. Moi, je trouve que c'est intéressant de pouvoir préciser ça. Bon, voilà. Après, de toute façon, effectivement, c'est un choix très personnel, mais j'imagine que toi, tu y as réfléchi et tu as l'air sûr de toi, donc c'est... Bon, voilà. Et aussi, peut-être une autre petite précision, une fois que la vasectomie a été faite, il y a encore la présence de spermatozoïdes pendant 3 mois, donc il faut conserver une méthode de contraception encore pendant 3 mois. Après la vasectomie. Voilà. Je ne sais pas si tu le savais, mais voilà, j'en profite pour le rappeler.
Mais, d'ailleurs, il y a à peu près la même chose du côté des ligatures.
Ouais, c'est ça.
Donc, ouais. Et pour est-ce qu'il y a des pays voisins où la vasectomie est plus facile à... Parce que les États-Unis et le Canada, c'est deux endroits où j'ai pas trop envie d'aller.
Oui.
Pour diverses raisons. Je sais pas, l'Angleterre, la Hollande.
En fait, je pense que c'est légal en France. Donc, je sais pas ce que t'appelles plus facile. Hein. Je pense que si tu vas voir un médecin et que tu l'exiges, je pense qu'il y aura pas de problème. Quand je dis il faut s'armer de courage, c'est parce qu'on va te renvoyer des trucs un peu négatifs. Mais
oui, on va essayer de te décourager.
Mais après, si toi t'es sûr de toi, je pense que personne ne pourra te l'interdire en tout cas. Après, moi, je sais pas. Je sais que effectivement, l'Espagne ou la Hollande, ils ont des fois un peu des pratiques un peu plus libérales, on va dire, sur par exemple les inséminations pour les personnes non hétérosexuelles. Après, sur la vasectomie, j'en sais rien du tout. Ça vaudrait peut-être le coup quand même de se renseigner pour pouvoir le proposer effectivement aussi, quoi.
En tout cas, c'est quand même important d'avoir bien en tête que c'est légal, que t'es tout à fait dans le droit de l'exiger. Et que en plus, leur boulot au médecin, c'est s'ils refusent de te le pratiquer, t'orienter vers quelqu'un qui le fera, c'est pris en charge par la sécurité sociale, normalement. Donc voilà, enfin moi je me dis aussi que d'aller dans un autre pays, ça coûte de l'argent. Enfin, faut voir aussi comment toi t'es prêt à envisager ça, quoi.
D'accord.
Voilà.
Et en tout cas, enfin Emma disait que c'est beaucoup pratiqué aux États-Unis. Moi, il me semble que j'ai lu un chiffre comme quoi 20% des hommes sont vasectomiés aux États-Unis. Donc, par rapport à la question des effets secondaires, ça veut bien dire que, enfin, il peut y avoir des suites comme pour toute opération, mais enfin, apparemment, ces effets secondaires, ils n'empêchent pas tous ces hommes de l'avoir fait et de bien vivre. Donc voilà, d'accord, pour te rassurer un peu sur les discours alarmistes de Wikipédia.
D'accord, mais c'est gentil. Ouais. Dans le serment d'Hippocrate, juste pour rire un peu, il y a une interdiction formelle de pratiquer l'avortement, par exemple, et c'est un torchon sexiste, le serment d'Hippocrate, ça vaut le coup de le lire aussi de temps en temps.
Ça, c'est sûr.
Oui, je l'ai lu dernièrement et j'ai bien halluciné, ouais, de lire ça, effectivement.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de rappeler que, effectivement, le cadre légal, il est souvent pas suffisant. Ça sera toujours un parcours du combattant pour arriver à faire entendre ses choix et ses désirs, parce que, effectivement, je trouve que le parallèle avec l'avortement, il est très intéressant. L'avortement en France est légal depuis 75 et pour autant, ça reste un combat, enfin, un parcours de la combattante pour le coup, pour avoir le droit à une IVG respectueuse et dans les délais aujourd'hui en France, quoi.
Donc, ouais.
Voilà, donc effectivement, pour tout ça, pour toutes ces pratiques un peu jugées, je sais pas, en tout cas avec des jugements négatifs, il faut effectivement être bien sûr de soi et être un peu courageux, quoi. Mais bon, je pense que tu peux aussi être entouré, être accompagné d'amis, pouvoir en parler au planning, qui est un lieu ressource quand même et relais. Bon, voilà, faut pas rester seul, je crois, face à ça aussi.
Ouais, puis je trouve que c'est tellement dangereux la pilule que ça me fait vraiment bizarre de me dire que non seulement c'est pas moi qui porte au moins la moitié des choses, mais en plus c'est une manière de suicide, donc point de vue santé, quoi. Donc voilà, c'est un peu difficile.
La pilule.
Bon, c'est ton ressenti et moi je le respecte. Après, moi je crois que la meilleure contraception, c'est celle qu'on choisit. Et si à un moment donné on choisit de prendre la pilule, c'est bon. Voilà, ça peut être une option. Mais en tout cas, moi j'ai envie de saluer le fait que t'as envie de prendre en charge cette question de la contraception et que c'est vrai que moi ça me réjouirait que plus de garçons s'en emparent. Voilà. Et bah écoute, en tout cas, si t'as envie de nous rappeler pour nous raconter comment ça s'est passé et peut-être, je sais pas, oui, c'est ça, nous faire part de ton expérience une fois que ça sera fait, on t'accueillera avec plaisir.
Ben alors 5 mois alors.
D'accord. on te repasse l'équipe technique, tu raccroches pas.
D'accord. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Salut. Voilà, et puis nous, on va lancer une petite musique.
Voilà, alors on va commencer par du maloya. Donc le maloya, c'est une musique traditionnelle de la Réunion. C'est issu des chants d'esclaves du 18e, 19e siècle, un truc comme ça. Hein. Et alors, c'est une chanson de Nathalie Natiembe, qui apparemment est la seule femme qui fait du maloya. Et la chanson s'appelle « Silaos ».
Pas ton ignorante, va-t'en fous. Pardon, maliser à la douée sur côté. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. L'air, la rivière, t'es pourtant lente, t'es tagué. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. Pardon, balisé, à la touée sur le côté. Oh, si là, si là, osa, sous ton ciel frais, moi la roule comme un cocon. Pour moi goûter tout ça que les doux, tout ça que les bons. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. L'air arrivée au déboutant l'homme des taquets. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. Pardon, malisé, à la douette sur le côté. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. L'air arrivé au déboutant là, t'es taqué. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. Pardon, balisé, à la douée sur le côté. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. L'air arrivé au déboutant là, t'es taqué. Plie pas ton des genoux, ne rentre pas ton cou. Pardon, balisé, à la douée sur le côté.
Eh ben, vous êtes toujours sur Calibre, la libre antenne sur Radio Kaléidoscope. Et donc, ben là, on vient de parler de la vasectomie, puis on va rester sur des sujets concernant les garçons.
Avec un auditeur hein, qui nous avait
appelé. Ah oui. Mais là, ça va pas être avec un auditeur, parce que pour le moment, on n'a pas d'appel. Donc, en fait, c'est un message d'une personne qui a écrit sur un forum. Et donc,
Je sais plus, forum.sexualité.com, un truc comme ça. Au point net.
Voilà. Et du coup, qui pose une question où il n'a pas de réponse, parce que si vous allez voir, c'est une question de pénétration douloureuse et il n'a toujours pas trouvé de réponse, parce que c'est assez rare que ça soit douloureux pour les garçons. Enfin, en tout cas, c'est fréquent chez les filles, donc il y a plus de sujets là-dessus. Bon, je vous lis son message, vous allez comprendre. Depuis que nous avons arrêté le préservatif avec ma copine, j'ai mal lors de la pénétration et les sécrétions vaginales de ma copine n'y changent rien. J'ai comme l'impression que la porte est fermée. Je n'arrive pas à la pénétrer sans forcer, ou alors je suis obligée de faire plusieurs petits allers-retours, comme pour me frayer un chemin. Dans les deux cas, j'ai mal. Or, ma copine ne ressent aucune douleur. J'ai beau la doigter avant pour essayer de dilater son vagin, rien n'y fait. Si vous pensez savoir d'où vient le problème, je serai heureux d'entendre vos solutions. Merci. Voilà. Donc, ben, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Emma,
Oui. Bah, en fait, alors déjà, j'ai donné la référence de ce forum, mais j'ai été assez, on va dire, alarmée par la teneur des discussions qu'il y a sur ce forum. En tout cas, ça se présente sous la forme de, bon, une personne poste une question comme ça, et puis tout le monde y va de son bon conseil, quoi. Et en général, par exemple, sur cette question-là, j'ai pas trouvé ce que moi j'aurais répondu, par exemple. Alors, je dis pas que moi, j'ai la bonne réponse, mais en tout cas, j'ai trouvé plein de choses que je trouvais vraiment très peu respectueuse de la personne, qui donc ça allait du ah bah t'as vraiment un problème, faut que t'ailles te faire soigner, ça doit être psychologique, qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton enfance, enfin moi je me suis dit à la place de la personne ça m'aurait vraiment pas aidé, ça m'aurait inquiété, et en plus il y avait vraiment plein de messages qui étaient de l'ordre du jugement, quoi, que en gros il assurait pas ou que il était malade. Donc ça m'a semblé un peu étonnant, parce que je crois que moi ce que je lui aurais dit en premier lieu j'aurais dit et les lubrifiants alors. Enfin en tout cas moi c'est ce qui me vient en tête d'emblée quand j'entends ça. Je me dis c'est sans doute un problème de lubrification tout simplement, et c'est pas vraiment un problème parce que des lubrifiants on en trouve un peu partout. En pharmacie ou dans les centres de réduction des risques, on peut en avoir gratuitement.
Parce que effectivement, à se dire que quand il n'avait pas du tout de problème avec un préservatif, et souvent les préservatifs sont lubrifiés, enfin se dire que le problème il démarre à l'arrêt du préservatif, c'est fort probable que ça soit une question de lubrifiant, enfin de lubrification. À savoir que en plus, parce qu'il parle des sécrétions vaginales de sa copine. Qui n'y change rien. Enfin, il y a des filles qui ont plus ou moins de sécrétions vaginales et qui ont d'ailleurs aucun rapport avec le désir qu'elles peuvent ressentir. Et donc, il y a des personnes, des filles qui ont besoin de plus de lubrifiants que d'autres. Donc voilà, faut pas hésiter du tout à utiliser des lubrifiants.
Ouais. Moi d'ailleurs, je trouve c'est intéressant ce que tu es en train de dire, parce que j'étais en train de me dire là moi, tiens, quel imaginaire j'avais autour de ça, il y a pas encore si longtemps. Enfin, c'est-à-dire, j'ai beau avoir 30 ans, je pense que ça fait pas si longtemps que je considère que le lubrifiant par exemple, ça fait partie intégrante ça peut faire partie intégrante d'une pratique sexuelle, et que c'est pas genre une béquille ou un pansement à un problème, enfin, et que j'ai longtemps été moi aussi dans cet imaginaire là de que normalement entre guillemets, si tout se passe bien et qu'on s'aime ou qu'on se désire très fort, et ben il ne suffit que de nos deux corps et on n'a pas besoin d'éléments extérieurs. Or, on peut trouver que le lubrifiant ou un sextoy, c'est magique aussi. Et c'est pas... En tout cas, les lubrifiants, je pense qu'ils sont largement utilisés et par plein de gens. Et pour cause, c'est que c'est quand même vraiment très, très agréable quand ça glisse, quoi. Et quand c'est pas irritant, que ça soit pour une pénétration ou tout simplement lors de frottements entre deux sexes. Enfin, ça peut être utilisé pour diverses pratiques, en fait, le lubrifiant. Pas forcément nécessairement que pour la pénétration vaginale ou anale. Ça peut être aussi utilisé pour des masturbations. On peut l'utiliser seul ou à deux. Enfin, voilà, quoi. En tout cas, c'est simplement pour que ça glisse. Et quand ça glisse, c'est fun, quoi.
Et d'ailleurs, tu parles de pénétration anale. Et du coup, j'ai envie de revenir sur la question de la dilatation. Ce garçon tente en vain de dilater le vagin de sa copine. Et en effet, un vagin, ça ne se dilate pas. Donc, pour effectivement que ça glisse, c'est bien de mettre du lubrifiant, mais contrairement au rectum et à l'anus qui peuvent se dilater, où c'est bien effectivement de préparer une pénétration, donc avec d'abord un doigt, deux doigts, avant par exemple si on veut faire une pénétration avec un pénis ou avec un gode, un vagin ne se dilate pas. Donc voilà.
Arrête oui,
je tape sur la table parce que je parle avec les mains, c'est comme ça.
Bon voilà ce qu'on peut dire sur les lubrifiants. Aussi dans ce petit livre qu'on a devant les yeux avec Mélanie, donc c'est le petit livre de la sexualité, on en a parlé à la dernière émission de radio. Donc c'est il y a deux versions de ce petit livre, une version écrite par des garçons pour les garçons et une version écrite par des filles pour les filles. Et dans la version pour les garçons, je ne sais plus s'il y a aussi dans celui des filles, mais bon, on vérifiera. En tout cas, il y a tout un petit chapitre sur les lubrifiants et des choses à savoir. Et on s'est dit, tiens, on pourrait rappeler quelques petits trucs par rapport à cette question de la lubrification. Il faut que je parle plus devant le micro. Ok. pas facile aussi quand on est en train de lire. Donc... oui, donc, alors, petit rappel, c'est très important d'utiliser des lubrifiants qui sont destinés à cet effet. C'est-à-dire que c'est vrai que si on a rien sous la main et qu'on se dit, tiens, je vais aller chercher la margarine dans le frigo ou la bouteille d'huile, bon, c'est pas super conseillé. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, on sait pas comment le corps réagit à ces substances-là. A priori, c'est vrai qu'on est censé les manger, l'huile ou la margarine, mais on ne sait pas vraiment de quelle qualité ça sera et quelles réactions peuvent avoir des sexes en fait à ce contact-là. En plus, il y a aussi des risques sur le plan de la compatibilité à l'utiliser avec des préservatifs, par exemple. Donc, ça peut faciliter le fait que des préservatifs se craquent. D'utiliser ce genre de méthode. Donc c'est quand même mieux d'utiliser des lubrifiants qui sont des vrais lubrifiants fabriqués à cet effet. Donc il y a plusieurs types de lubrifiants. Il y a des lubrifiants à base d'eau ou de silicone. Tout ça peut être utilisé comme on le souhaite. Moi, personnellement, par exemple, je préfère les lubrifiants qui ne sont pas à base d'eau, mais plutôt à base de silicone, parce que je trouve que ceux à base d'eau, ils sèchent très vite. Et voilà, je trouve que c'est pas très pratique d'avoir son pchit-pchit en permanence ou son, son petit flacon pour se lubrifier toutes les 5 minutes, mais bon, en tout cas, ça marche, quoi, je veux dire.
Oui, c'est, moi, c'est j'utilise bien. Des lubrifiants à base d'eau et ça fonctionne.
Et toi, tu trouves pas que ça sèche?
Moi, j'ai jamais utilisé le lubrifiant à base de silicone, donc faudrait que j'essaye pour voir la différence, mais ça sèche un peu, mais ça va, ça... Je m'en sors très bien.
Peut-être que toi, tu te lubrifies en permanence ou...
Peut-être, mais il y a un mécanisme. Bon, en tout cas, ce qui peut être aussi rajouté par rapport au lubrifiant, c'est que vous avez sûrement vu aussi que maintenant, il y a des lubrifiants qui font du chaud, qui font du froid, des trucs de fou. Et alors, ce qui est bon à savoir, c'est que souvent, dans ces lubrifiants qui font des effets bœuf, il y a des... comment on appelle ça ? Des anesthésiques. Donc, on va pas vous dire de pas les utiliser, puisque si ça fait des fois, ça fait des effets bœuf. Enfin, moi, par exemple, j'aime pas trop l'effet chaud, mais j'aime bien l'effet froid, par exemple, si vous voulez tout savoir. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, donc c'est le fait que ça soit anesthésique, c'est que vous pouvez moins ressentir la douleur. Et donc, c'est important à savoir parce que, par exemple, pour des pénétrations anales ou même vaginales, hein, d'ailleurs, si vous avez moins conscience de votre douleur, eh ben c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, mais si vous savez que ça a cet effet-là... utiliser les comme il vous semble. C'est ça quand même, hein ?
Oui, enfin comme ça nous va quoi.
Comme ça nous va, c'est super.
D'accord. Et aussi dernière petite chose, c'est de vérifier la liste des composants des lubrifiants qu'on utilise tout simplement pour être sûr qu'on n'est pas allergique à certains composants. Donc voilà, ça c'est une petite vérification qu'on peut faire si c'est la première fois qu'on utilise certains lubrifiants, d'être un peu au clair sur la composition et les éléments qu'il y a dedans et voir si on n'y est pas allergique, quoi. Voilà. Et aussi, ce que je voulais rappeler, parce que dans ces petits conseils lubrifiants, c'est vraiment aussi, mais peut-être qu'on l'a dit, mais en tout cas, sur la lubrification dite naturelle, donc les sécrétions vaginales ou autres, ça n'a pas un lien du tout avec l'excitation, le désir. Qu'on se relâche, enfin, je veux dire qu'on se détende aussi là-dessus, quoi. Que si pour les filles, par exemple, on sent que on mouille pas, que on n'a pas de sécrétion vaginale, et pour autant on a vachement envie de faire du sexe avec la personne avec qui on est, tranquille, quoi. C'est pas grave, et ça arrive souvent. Et c'est pour ça que les lubrifiants, ça existe et c'est super. Enfin, en tout cas, voilà, moi je crois que j'aime bien le dire parce que ça peut être très culpabilisant. Si en face on nous dit ah t'es toute sèche, qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà.
Moi je dirais même que parfois quand on a vraiment l'impression de pas du tout avoir de lubrification, il me semble qu'il y a des traitements pas résorber ça, mais pour rééquilibrer, mais j'en sais pas plus, alors je ferai des recherches et je vous en dirai plus la prochaine fois.
Ok.
Mais pour revenir quand même sur la question du forum, moi je voulais aussi lui dire, même si je suis pas bien sûre qu'il nous écoute, que en fait, si actuellement la pénétration pour lui c'est une pratique qui est pas forcément facile, évidente, douloureuse, etc. Et il pourrait aussi faire d'autres choses avec sa copine et qu'il y a plein d'autres choses qui sont possibles en dehors de la pénétration. Donc je sais pas, t'as des idées, Emma?
Ah oui, tout à fait. On peut se lécher le kiki. Donc cunnilingus, fellation, anulingus, tout quoi, caresse,
masturbation
mutuelle ou l'un à côté de l'autre. Enfin, voilà quoi. Il y a plein de choses à inventer, plein de choses à faire. Et effectivement. On redit encore, il n'y a pas de déroulement conseillé ou valorisant en fait dans un rapport sexuel, quoi. On peut très bien passer 2 heures à se lécher le kiki et avoir un orgasme. On peut très bien passer un quart d'heure à se masturber et s'astiquer comme des fous. Enfin, voilà, ça peut être vraiment différent et le dérouler. Comme on appelle ça, préliminaire, pénétration, éjaculation, basta, c'est pas du tout obligatoire, quoi. On peut vraiment faire d'autres choses. Donc voilà, c'est vrai que ce sujet, ça nous permet aussi de pouvoir dire, bon, la pénétration, quand on aime ça, c'est super, il faut le faire et n'oublions pas les lubrifiants, mais il peut y avoir aussi plein d'autres pratiques qui sont tout aussi chouettes et sympathiques. Voilà.
Bon, on s'écoute une petite musique.
Ouais, alors la deuxième chanson qu'on avait programmée, c'est Pete Gervais. Et c'est quoi le titre? Ah ouais, Down by the Water.
I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me. And now I'm old. She said no more.
Vous êtes toujours sur Calibre 97 FM, sur Radio Kaléidoscope en direct. Nous sommes le 4 février.
Nous avons toujours pas d'appel. Alors peut-être on peut quand même rappeler le numéro de téléphone, le 04 76 09 09 09. Vous pouvez encore nous appeler, il n'est pas trop tard.
Il n'est pas trop tard et en plus on peut se permettre de déborder un petit
peu. Oui,
oui,
oui.
Voilà.
Et alors pour continuer, on va parler d'un message que nous avons reçu sur notre boîte mail. Donc voilà, c'est quelqu'un qui nous a envoyé un lien d'une vidéo sur un site dont je vais vous expliquer un peu le contenu parce que vous avez pas vu cette vidéo. Donc déjà pour vous dire, c'est une vidéo c'est une interview de Michela Marzano. C'est une Italienne qui est maintenant chercheuse au CNRS. Et cette interview est sur le site Genrimages, donc c'est genrimages.org. Voilà, et donc à la rubrique pornographie. Et oui, nous allons parler maintenant de pornographie. Donc voilà, qu'est-ce qu'elle nous raconte dans cette interview, cette Madame Marzano, ou Mademoiselle, j'en sais rien. On s'en fout. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que la pornographie, elle contribue à créer des stéréotypes des comportements sexuels, avec les garçons qui seraient des godemichés sur pattes, c'est elle qui le dit, et des femmes objets, soumises, prêtes à tout, toujours disponibles, des choses comme ça. Donc, elle parle bien de la pornographie d'aujourd'hui. Enfin, c'est ce qu'elle appelle ça comme ça. Donc, ce qu'elle dit aussi, c'est que cette pornographie, elle est traversée par des rapports de domination et par que cette pornographie, elle transforme les individus en objets, que ce soit les garçons ou les filles, et qu'il n'y a pas du tout de représentation du désir dans ces films pornographiques, et que tout ça est présenté comme si c'était la réalité. Et que du coup, ça crée une certaine, elle appelle ça normativité de la sexualité, qui du coup, son hypothèse, c'est que ça induirait des comportements dans la réalité, quoi. Voilà. Je sais pas. J'espère que j'ai été claire.
Oui.
Oui.
Oui. Oui.
Voilà. Et du coup, cette personne Y nous envoie ce petit ce lien vers cette vidéo et nous fait quelques commentaires dessus pour qu'on en discute. Alors, si cet auditeur nous écoute, il peut nous appeler. Il est fortement invité à nous appeler. Ce serait vraiment super.
Oui, parce que c'est pas évident en fait, parce que là, ça va être un peu notre interprétation
de son mail. Ouais. C'est dommage.
Voilà. Et puis, ce serait quand même intéressant de pouvoir discuter parce que nous ça nous ouais je pense qu'on a pas mal de choses à dire du coup autour de ça. Alors il nous dit: je trouve peut-être à tort qu'à force de critiquer les images jugées pornographiques comme étant dégradantes et machistes, on promeut une vision conservatrice des femmes. Voilà. Il dit en gros on a le droit d'aimer ça. Et il trouve que il dit j'ai l'impression que la personne interviewée oublie complètement le droit au désir. Voilà. Donc moi ce que je comprends de ce qu'il nous dit c'est que en fait à force de dire ah la pornographie c'est mal, c'est pas beau, tout ça, on maintient les femmes dans cette image un peu, dans cette posture un peu passive où en fait elles auraient pas de désir, où elles auraient pas envie de faire des trucs un peu foufou, et où en fait les femmes seraient un peu sages comme ça, et puis ouverte à une sexualité plutôt classique ou je sais pas quoi, ou en tout cas elle serait dans des positions passives quoi, où elle serait pas très initiatrice, pas très inventive. Bon voilà. Moi c'est ce que je comprends comme première critique. Alors bon, on pourrait dire je sais pas, il y a vraiment plein de choses à dire autour de ça. moi je crois en fait, bon, j'ai qu'à dire ce que j'en pense là, c'est moi je crois que ce que je trouve intéressant dans la critique de Michaela, donc cette interview là de cette chercheuse, c'est que effectivement en fait la majorité en tout cas de ce que moi j'ai vu de films porno ou d'images pornographiques, c'est que on retrouve toujours les mêmes mécanismes et toujours les mêmes rôles, c'est-à-dire les hommes hyper virils, hyper bien membrés, qui sont en permanence en érection, toujours prêts à pénétrer le premier vagin qui passe ou le premier anus ou la première bouche, et les femmes offertes complètement excitées dès qu'on leur frôle le sexe et qui jouissent au bout de 5 minutes de pénétration intense quoi. Voilà, et moi ben je crois que si j'ai une critique à faire par rapport à cette manière de montrer des pratiques sexuelles, c'est que c'est toujours la même chose en fait, c'est toujours les mêmes rôles, c'est toujours les femmes qui sont dans des postures ou des positions effectivement de soumission, moi je trouve, en tout cas toujours offertes et toujours pénétrées et pas très actrices d'autre chose que ça, et les hommes pénétrants, super virils, et voilà. Et donc moi ça m'emmerde en fait, enfin moi ça correspond pas forcément à toutes mes pratiques sexuelles. Et en plus, je crois que j'ai envie de voir autre chose, en fait, comme représentation de la sexualité. J'ai pas envie de voir que des représentations d'hommes qui pénètrent des femmes et qui éjaculent et tout le monde est content, quoi. Donc, voilà. Moi, je crois que c'est ça qui me fait écho, en fait, dans la critique de cette chercheuse, quoi.
Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que c'est assez rare qu'on trouve autre chose que ça dans la pornographie. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, il n'y a pas que dans la pornographie qu'on a cette image de la femme. Et du coup, en fait, il faut pas se centrer sur une critique de la pornographie parce qu'en fait, d'une part, on occulte tout le sexisme qui peut y avoir dans toute la société à travers la publicité, à travers tout, hein. Mais notamment, enfin, là, si on parle de la femme comme objet sexuel, etc., dans la publicité, c'est très présent. Et ça n'a pas besoin d'être des images pornographiques pour diffuser quand même ce type d'image de la femme, des femmes. Et en même temps, enfin voilà, j'ai l'impression que cette critique de la pornographie, des fois, elle finit par défendre aussi une certaine vision prude de la sexualité. Enfin, je veux dire à se dire que en fait, c'est il y a quelque chose d'obscène là-dedans, que c'est la sexualité, c'est pas censé être comme ça, mis en spectacle, des choses comme ça, quoi. Et moi, j'ai envie de critiquer ce mécanisme-là, parce que je pense que la pornographie, ben c'est bien qu'elle existe. Après, celle qu'on a, qui est écrasante dans nos sociétés, c'est vrai que moi, elle me donne pas envie. Et puis, je trouve qu'elle est même craignose à plein d'égards. Mais je crois que faut pas... c'est quoi l'expression, là ? Faut pas jeter l'eau du bain.
Ouais, l'eau du bain, tout, quoi.
S'en fout, quoi. mais voilà, par contre, c'est peut-être intéressant de visibiliser d'autres formes de pornographie qui sont peut-être moins diffusées.
Oui, parce que c'est ça, en fait. Moi, par exemple, je trouve que la pornographie, ça peut être super, quoi. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien lire des livres érotiques. Je crois que j'aime bien l'idée que si je trouve des lieux sur Internet ou des vidéothèques qui proposent d'autres films que le schéma classique qu'on a déjà décrit, je trouverais ça super, en fait. Enfin, je trouve que ça peut être aussi inspirant. Enfin, moi, il y a certains films pas porno qui m'ont inspiré des fois dans ma sexualité. Enfin, de comment ils ont pu suggérer à un moment donné diverses formes de relations et de pratiques sexuelles. J'ai trouvé ça excitant et ça a pu m'inspirer. Donc, bah là c'est pareil. Je pense que un film, ça pourrait être aussi un jouet sexuel, quoi. Ça pourrait faire partie, en tout cas, de quelque chose qu'on regarde tout seul ou à deux. Enfin. Mais c'est vrai que dans ce qui existe, moi, pour l'instant, j'ai trouvé peu de choses que je trouvais sympathiques, quoi, et excitantes. Donc voilà. Et simplement une précision, quand Y point nous dit on a le droit au désir et si j'ai envie d'être uniquement objet sexuel, et ben je peux et c'est comme ça, et ça veut pas dire qu'on a un problème ou que les femmes sont soumises, etc. J'ai envie de dire, mais bien sûr, enfin, si à un moment donné ça nous fait triper d'être à quatre pattes et pénétrer follement pendant 5 minutes, pourquoi pas. Enfin, moi j'ai pas de a priori de, enfin, j'ai rien à dire là-dessus, ou en tout cas si les gens se font plaisir, il y a aucun problème, quoi. Moi, ce qui me pose problème dans les représentations actuelles d'images pornographiques ou de films ou de scènes, etc., c'est le manque de diversité, c'est le manque de panels suffisamment larges pour que ça fasse écho au plus de monde possible. Et que moi, l'impression que j'ai, c'est que aujourd'hui, ce qui est produit, c'est destiné à un public très précis qui sont les hommes. Et voilà. Et les hommes qui tripent sur pénétrer follement pendant 2 minutes et demie et éjaculer, quoi. Voilà.
Alors du coup, moi, pour faire plaisir à Emma et puis pour ouvrir un peu les perspectives, j'ai fait mes petites recherches sur Internet et pour voir un peu ce qui pouvait exister comme pornographie un peu autre que celle dont on parle. Bref. Et du coup, je suis tombée. J'espère qu'il y en a d'autres de sites, mais je vous propose un site qui s'appelle Lust. lustfilm.com, où là c'est une maison de production de Barcelone de filles qui se disent féministes, donc j'ai pas vraiment vu tous leurs films, etc. En tout cas, j'en ai vu un et effectivement je trouvais que c'était un peu différent d'habitude, où c'est les femmes, elles sont pas des objets, voire même il y a vachement d'humour, moi j'ai bien rigolé, mais quand même j'ai quand même trouvé que dans le film que j'ai vu, la représentation du parcours sexuel était très très normée, donc avec cunnilingus, fellation en préliminaire et après pilonnage industriel jusqu'à orgasme de la femme, puis éjaculation faciale.
Ah ouais.
Donc voilà, c'était quand même ça, mais je trouvais que le personnage de la fille était un peu avec plus de substance que d'habitude, en fait. Je vous le livre comme ça. Puis si vous en avez d'autres, si vous avez d'autres sources, eh ben appelez-nous. On serait bien contente de les connaître.
Mais en tout cas, peut-être ça vaut le coup de fouiller ce site, parce que je me dis, s'il y a ce film-là, parmi d'autres, dans un panel comme ça, un peu divers et qui offre plein de scénarios différents et plein de pratiques différentes, ça peut être vraiment chouette. Parce que moi, je me dis, peut-être que certains d'entre nous trouvent ça génial, les éjaculations faciales, par exemple. Et moi, je me dis, bah super, s'il y a des gens que ça peut nourrir de regarder ça et tout. Mais s'il y a que ça, c'est ça qui est dommage, quoi. Mais s'il y a d'autres choses, je trouve.
J'ai regardé un peu les petits synopsis. Ça avait l'air assez divers quand même, les histoires, etc. Donc je vous rappelle le site, c'est lustfilm.com.
Et c'est payant, hein, c'est ça.
Par contre, c'est payant. Voilà, ouais. je voulais revenir là-dessus. C'est entre 4 et 5 euros le film. Le film que j'ai regardé faisait une demi-heure. Voilà, pour vous saurez tout.
Oui. C'est toujours moi, du coup, c'est ça que je trouve vraiment dommage dans ce qu'on peut trouver de différent, c'est que souvent c'est de l'accès payant, quoi. Et effectivement, la pornographie gratuite, on va retomber dans les mêmes. Enfin, dans les descriptions qu'on faisait tout à l'heure, quoi, de la sexualité un peu dominante. Et par contre, il y a un autre site dont on avait parlé justement l'autre fois quand on parlait de porno, là.
Oui.
Alterne.
Oui, mais c'était moi qui en parlais et c'était moi qui en parlais et en fait j'ai cherché et j'ai pas trouvé ça.
Ah ouais.
Donc c'était quelqu'un qui m'en avait parlé, mais bon. Pour le moment, ce n'est pas une source sûre.
D'accord. Bon, voilà. Donc, à côté du YouPorn, il y a Alterporn. a priori, mais on sait pas. Voilà, comme quoi c'est quand même assez révélateur de la pauvreté de ce qui existe, quoi. Mm-mm. Bon. Voilà, c'était la page porno.
Voilà.
De calibre.
Donc on va se quitter bientôt, hein, parce que c'est l'heure.
Une.
Donc on vous rappelle qu'aujourd'hui on est le 4 février. Donc si vous nous écoutez, que vous êtes le 11 février, c'est que vous écoutez une rediffusion. Donc nous espérons que vous n'avez pas essayé de nous appeler aujourd'hui. Enfin, le 11 février, bref, on s'en mêle toujours les pinceaux avec ça. Hein.
Oui, mais bientôt, ça sera fini, puisque au mois de mars, nous passons à une émission hebdomadaire. Donc, ça sera tous les jeudis. Voilà.
Alors, pour réécouter cette émission et toutes les émissions depuis le 1er octobre, vous pouvez aller sur le site calibre.vouron.org. Alors, je vais vous redire ça comme ça. K, c'est CAS-du-milieu, libre au pluriel, poivron comme le légume .org. Et si vous avez des choses à nous dire par mail, on préfère que vous nous appeliez, ça c'est sûr, mais vous pouvez nous écrire à kcas-libre au pluriel @poivron comme le légume .org.
Et on prendra le temps de répondre à vos questions ou à vos remarques par ce biais là aussi. Si vous travaillez ou que vous avez une activité très importante le jeudi à 20h, voilà, il y a une autre alternative, quoi.
Voilà, donc la prochaine émission, ça sera en direct, ça sera le 18 février. Et puis, on rappelle l'équipe de ce soir. Donc, il y avait Christelle et Maud à la technique et puis Emma et Mélanie au micro.
Voilà. Et si vous voulez... je voulais juste préciser, sur le site internet, vous pouvez écouter les émissions, mais vous pouvez aussi les télécharger et les mettre dans votre MP3 et l'écouter dans le bus, c'est bien aussi.
Ou dans le tram,
voilà.
Et dans le vélo.
Bonne soirée et à la semaine prochaine.
Salut, salut.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Les premiers et troisièmes jeudis du mois de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.